Bonjour, chers frères et sœurs. Pour notre étude ce matin, nous allons prendre nos Bibles et tourner dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, les premiers trois versets. Épître aux Hébreux, chapitre 12, les premiers trois versets. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière que nous est ouverte, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne lassiez point l'âme découragée. C'est la parole de Dieu. Aucun d'entre nous n'a jamais pensé au début de cette année 2020 que la vie sur cette terre changerait de la manière dont cela s'est passé. Nous n'aurions jamais pensé porter des masques et nous laver les mains avec un liquide étrange tant de fois en une journée que nous arrêterions d'embrasser nos proches et nous entendrions même pas nos mains pour serrer la main de nos amis pour les saluer. Les choses que nous avons pensées être normales sont devenues anormales. Des millions de personnes ont perdu leur emploi. Des centaines de milliers de personnes ont perdu leur vie. Et des autres milliers sont hospitalisés même en ce jour. Et aucun d'entre nous ne sait comment nous finirons cette année. Mais en tout cas, toute chose, il y a un enseignement. Et nous sommes en train de passer par ce problème et nous devrions apprendre les leçons que ces choses peuvent nous enseigner. Et par exemple, aujourd'hui, nous avons mieux compris que l'Église n'est pas un bâtiment, mais au-delà de ce bâtiment, on peut avoir la communion fraternelle en Christ Jésus. Nulle part dans la Bible, nous avons la promesse que la vie chrétienne allait être quelque chose de facile. D'ailleurs, le contraire est vrai. Jésus lui-même dit dans Jean 16, 33, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Et en tant que chrétien, nous savons déjà, même avant cette pandémie, que nous aurons des difficultés, des épreuves qui viendront pour nous faire trébucher dans notre chemin et pour nous tenter d'abandonner. Cela semble être l'idée dans le livre des Hébreux. Ces chrétiens ont connu un temps très difficile. Ils ont rencontré la persécution. À la lumière de cela, l'écrivain tente d'encourager ses croyants fatigués à être fidèles au Seigneur et à continuer à mener leur course. Le passage que nous allons étudier ce matin n'est bien sûr pas nouveau pour nous. Nous avons certainement déjà vu et étudié ce passage de nombreuses fois. Mes chers frères et sœurs, la beauté de la Bible est que chaque fois que nous la lisons, elle nous parle différemment et d'une manière très, très personnelle. Certes, la parole de Dieu est immuable, mais elle nous parle en toute vérité, quelles que soient les circonstances ou les situations que je puisse vivre. Et chaque fois, que nous ouvrons la parole de Dieu pour la lire, c'est plutôt elle qui nous lit. Je suis sûr que Dieu parlera à chacun d'entre nous d'une manière unique à travers le passage qui est devant nous. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. La première phrase, nous donc aussi, nous observons ici que l'écrivain des Hébreux ne s'exclut pas de ceux qui courent la course. Lui-même est l'un des coureurs. La vie chrétienne, dans son ensemble, est comparée à une course. Nous comprenons que personne ne peut s'exclure de cette course. Nous sommes tous censés courir vers l'objectif. Nous devrions courir jusqu'à la mort et ensuite nous joindre à ces innombrables témoins de cette glorieuse course mentionnée ici. Lorsque nous voyons la façon dont le 12e chapitre commence, nous savons qu'il devrait être la continuation de quelque chose déjà dit dans le 11e chapitre. Oui, le contexte est Hébreux chapitre 11. L'accent est mis sur le témoignage de ces grands saints de l'Ancien Testament qui ont témoigné de la fidélité de Dieu. Les coureurs du chapitre 12 doivent les regarder plutôt que ces témoins fidèles qui regardent les coureurs. Abel, Enoch, Noé, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Rahab, Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel, et la liste de ces témoins est vraiment sans fin. Le nuage de témoins est une métaphore courante pour un grand nombre de personnes. Cette vaste multitude de témoins est incontestablement les innombrables héros de la foi en Hébreux 11, qui témoignent du fait que Dieu a accompli toutes ses promesses dans la promesse de Jésus-Christ. Il est celui qui est plus grand que les anges, les prophètes, Moïse, l'ancienne alliance, le souverain sacrificateur et les sacrifices. Ils ont témoigné de ce qu'ils savaient personnellement. Les témoins ne sont pas passifs et ne sont pas silencieux. Ils nous parlent à travers les pages de l'Ancien Testament. Ils nous encouragent à travers leur témoignage pendant que nous lisons. Leur voix nous encourage à mener la course qu'ils parlent encore, quoique mort, comme c'est écrit sur Abel. Leur voix nous encourage à mener la course qu'ils parlent encore, quoique mort. Leur vie et leur expérience sont un témoignage pour nous de ce qui plaît à Dieu. Ce sont des exemples de la foi durable, des hommes et des femmes qui croyaient en Dieu. C'est pourquoi il peut être bénéfique pour nous de lire et d'apprendre de la vie de nombreux saints qui ont couru et terminé leur course devant nous. Nous devrions cultiver l'habitude de lire les biographies de grands chrétiens qui sont à notre disposition. Alors que nous cherchons à suivre les traces d'autres personnes qui ont couru leur course de la foi, il y a trois choses nécessaires comme présentées dans notre texte. La première chose que nous voyons dans le premier verset, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Je pense que chacun d'entre nous comprenons qu'est-ce que ça veut dire. Nous devons mettre certaines choses de côté. Nous devrions débarrasser de certaines choses de notre vie. Le coureur qui cherche à gagner doit perdre autant de poids que possible qui peut entraver sa course. Il porte des vêtements légers qui lui donnent la liberté de mouvement. Dans la langue originale, le mot utilisé signifie poids, fardeau, obstacle. Et dans le monde athlétique, signifiait en majeure partie du poids corporel inutile qui devrait être réduit par le bon entraînement avant la course. Donc, on sait ce qu'il faut débarrasser quand nous voulons courir avec succès. Au moment du cours, le candidat grec devrait être déshabillé. Métaphoriquement, cela signifie tout ce qui pourrait gêner le coureur dans le cours spirituel. Heureusement, aujourd'hui, nous avons la technologie moderne qui fabrique des vêtements qui peut aider le coureur de mieux courir sans être déshabillé. L'excès de poids, les vêtements de frottement, etc., peuvent être la différence entre victoire ou la défaite. Rejetons tout fardeau, des choses qui ralentissent notre progrès spirituel. Tout fardeau. Le Seigneur Jésus lui-même, il a dit, je vais lire de Luc 21, versets 34 à 36, « Prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent pas les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Donc nous savons ce qu'il faut que nous, ce qu'il faut débarrasser dans notre vie. Si notre souci, c'est seulement pour manger et pour boire et vivre paisiblement sur cette terre, ça peut peser sur nous. Regardez ce que est écrit dans Colossiens 3:8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de vos bouches. Renoncez à toutes ces choses. Et encore à la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 1 et 2, rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Donc, la parole de Dieu nous instruit ce qu'il faut débarrasser de notre vie pour courir. Et ce qu'il faut prendre pour prendre force, ce qu'il faut manger pour prendre force. Et Jacques 1, 21, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc voilà, ici nous avons vu de nombreuses choses que nous devrions débarrasser de notre vie pour courir dans la course. Et parfois, on peut débarrasser des vêtements superflus, on peut débarrasser beaucoup de choses qui accrochent sur nous, c'est facile. Mais parfois, il y a une anecdote, hein. Un coureur, il était en train de courir, mais le chemin, il était rude et cailleux, avec beaucoup de... le terrain, il n'était pas facile, mais... Il a couru avec succès. Mais un autre qui était en train de courir sur un terrain qui était lisse, bien fait, mais il avait mal à courir. Quand quelqu'un demandait pourquoi il avait mal à courir, il a dit qu'il avait une petite caillou dans son chaussure. Et parfois, on peut courir avec quelque chose en nous qui peut nous gêner de faire cette course. Et troisièmement, nous voyons que le péché est le péché qui nous enveloppe si facilement. Et le péché qui, dans le verset 1, Hébreux chapitre 12, verset 1, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Tous les péchés doivent être mis de côté. Tout péché non confessé devant Dieu, tout péché non pardonné est certainement un poids dans notre vie spirituelle. Regardez ce que le psalmiste David, il a écrit dans le psaume 34. Je vais lire le premier 4 versets. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse comme celle de l'été. Quand on cache notre péché, nos iniquités, c'est lourd. C'est une charge très lourde à porter. C'est pourquoi nous devrions confesser devant Dieu tout péché. Tout péché non pardonné est certainement un poids dans notre vie spirituelle. Du contexte, nous comprenons que le péché d'incrédulité est bien dedans. Cette épître est écrite pour encourager les chrétiens pour garder leur foi en Jésus-Christ et son alliance. Dans la même épître, nous sommes avertis contre l'incrédulité. Regardons Hébreux 3:12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Dans cette course spirituelle que nous entreprenons, dans notre vie spirituelle, si nous avons un cœur incrédule, si nous n'avons pas la foi, on ne peut pas faire cette course. Parce que la parole dit qu'au point de se détourner de Dieu vivant. Avec une pleine assurance de la foi et avec chaque poids et obstacle mis à côté, nous pouvons courir avec la foi, comme Dieu l'a voulu, comme nous comprenons la nature de cette course qui est devant nous, nous savons que nous avons besoin d'endurance ou persévérance. Deuxièmement, nous voyons que nous avons besoin de la persévérance. Première chose, il faut rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et deuxièmement, nous avons besoin de la persévérance. La dernière partie de verset 1, il dit « Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. » La course de la foi est comme un marathon, pas comme une course de vitesse. Il ne consiste pas d'une rafale d'énergie dans laquelle la course est vite terminée. Parfois, un nouveau converti, il a beaucoup d'énergie. Il veut tout dépenser dans quelques jours. Après, il peut plonger. Mais la course de la foi est comme un marathon, pas une course de vitesse. Cette course exige un effort soutenu sur une longue durée de temps, car le chemin est long. La persévérance est une qualité nécessaire pour un chrétien. Jésus enseignait souvent à ses disciples la nécessité de persévérance. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Matthieu 10:22. Et encore Matthieu 24:13, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette vertu de persévérance avait été soulignée plus tôt dans cette épître aux Hébreux, dans l'exemple d'Abraham. Hébreux chapitre 6, versets 11 à 15, on peut suivre ensemble. Hébreux 6, versets 11 jusqu'à 15. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point. ne lâchiez point, et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit, « Certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. » Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Regardons encore Hébreux 10, 36 à 39, où il reprend l'écrivain de Hébreux, il reprend ce qu'il était dit dans le livre de Habacuc. Car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtiendrez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Il ne tardera pas. Verset 38. Et mon juste vivra par la foi, mais il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Mais quand nous voyons une course dans les Jeux Olympiques, quand nous regardons, et parfois il y a des gens qui abandonnent leur course. Ils ne peuvent pas persévérer jusqu'à la fin. Ils ne peuvent pas continuer jusqu'au but. Romains 15, 4 dit, « Or tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous posséderons de l'espérance. » Et dans la parole de Dieu, il y a plusieurs mots qui signifient ce terme, ce qu'on dit la persévérance. La patience aussi, c'est la persévérance. Et apôtre Jacques, dans son épître, il dit, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Nous pouvons apprendre une telle patience et persévérer avec la parole de Dieu, comme nous lisions la fidélité de Dieu qui accomplit toutes ses promesses, et aussi quand apprenons la vie de tous les saints qui ont persévéré dans la foi. Je vais lire de Romains, chapitre 2, versets 5 à 7, « Le juste jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. » Par la persévérance à bien faire, par la persévérance à bien faire, cherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. Dit l'apôtre Paul dans son épître aux Romains. Par conséquent, la persévérance est nécessaire pour réussir cette course de la foi. Sans la persévérance, on ne peut pas finir cette course. Tout aussi important est où nous avons nos yeux fixés quand nous courons cette course de la foi. Donc, troisièmement, la première, c'était de débarrasser de tout, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Deuxièmement, nous avons besoin de la persévérance. Et troisièmement, nous voyons que nous devons nous regarder à Jésus seul. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Dans notre course, nous devrions garder nos regards fixés sur Jésus. Nous pouvons bien sûr voir les témoignages des autres personnes dans la Bible. C'est pourquoi Dieu nous a laissé ces témoignages. Mais devant le Seigneur Jésus, tous ces vaillants héros de la foi sont que des personnages faibles qui ont chuté une ou plusieurs fois dans leur vie. tous ces grands héros de la foi, soit c'est Abraham ou Moïse, sont tous chutés une ou plusieurs fois dans leur vie. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Dit Paul dans son épître aux Colossiens, chapitre 3, le premier 3 versets. Donc, il nous exhorte de regarder en haut, fixer nos regards en haut. Il est dit qu'un chrétien est celui qui a ses pieds sur cette terre, mais la tête dans les cieux. Je pense que vous comprenez bien sûr que ce qu'il voudrait dire. Car le but de notre course ici-bas sur cette terre est pour atteindre Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Si nous allons regarder en dedans de nous, nous-mêmes, nous allons être troublés. Si nous allons regarder en arrière, nous allons nous perdre. Si nous allons regarder tout autour de nous, nous allons être distraits. Nous allons droit devant notre but. Notre but est le Seigneur Jésus-Christ. On a certainement observé quand les gens ils courent, et il regarde uniquement le but, il ne regarde pas la personne à côté, il ne regarde pas en arrière. Il ne tourne pas la tête pour regarder en arrière, c'est impossible de courir en avant en regardant en arrière. Leurs yeux sont fixés droit vers le but. Regardez avec moi en Hébreux 2, 9 à 10, Hébreux chapitre 2, versets 9 à 10. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a souffert, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Le verset 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Donc, nous avons quelqu'un qui est un modèle pour nous, qui a fait cette course, qui a regardé en haut. Car Jésus est le chef et le consommateur de la foi. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Et ayant couru la course lui-même, Hébreux 10, 20, Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc si nous sommes en train de faire cette course sur cette terre, nous ne devrions pas regarder à côté. Mais si vous voulez, même entre nous dans l'Église, et chacun nous avons un chemin à faire. On ne peut pas envier le chemin que l'autre il fait. Et nous avons un chemin unique à faire. Dieu il a mis un chemin pour chacun. Et nous devrions fidèlement courir dans notre chemin. Si nous regarderons à côté un autre, il n'est pas en train de vivre ce que vous êtes en train de vivre. Et vous n'êtes pas en train de vivre ce que lui il est en train de vivre. Donc comment on peut imiter des autres? Mais on peut imiter le Seigneur Jésus qui est un modèle pour nous, qui a tout fait et qui a couru cette course avant nous, ayant le regard en haut. Jésus, notre précurseur, a couru en vue de la joie qui était devant lui. Il a couru en vue de la joie qui était devant lui. Regardons Psaume 16. Ça parle du Seigneur Jésus. Psaume 16, versets 9 à 11. Psaume 16, versets 9 à 11. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Ce qui était le sentiment de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand il a passé par cette terre, quand il a vécu sur cette terre, c'était le sentiment qui était en lui. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Donc, bien souvent, mes chers frères et sœurs, on a la tendance à regarder nos voisins. Nous avons la tendance de nous comparer avec des autres. Mais ce qu'il faut savoir, que nous avons un chemin unique à faire. Et nous avons la joie qui était réservée pour nous. Et nous avons la vie éternelle. Nous avons la vie éternelle en Jésus-Christ. Et pourquoi regarder en arrière? Pourquoi regarder à côté? Et pourquoi regarder les autres? En vue de cette joie, Jésus a enduré les douleurs sur la croix. En vue de cette joie, Jésus a enduré les douleurs sur la croix. Et si nous avons nos yeux fixés sur Jésus-Christ, si nous avons la vue de cette joie, on peut endurer beaucoup de choses que on peut penser qu'on ne peut pas faire. Jésus-Christ, il a enduré la douleur sur la croix. Et ça, c'est la douleur physique. Un être humain, il ne peut pas être traité plus dur que celui-là. Et la joie qu'il avait, c'est d'être assis à côté de droite de Dieu, comme on a lu en Psaume 16. Et il a eu le mépris et l'ignominie. Le mépris et l'ignominie, c'est la douleur émotionnelle et l'agonie spirituelle. Il a souffert la douleur émotionnelle et l'agonie spirituelle parce qu'il avait ses yeux fixés sur cette joie qui était réservée pour lui. Tout comme Jésus, nous aussi, nous devons nous tourner nos regards vers Jésus. Pensons à Jésus-Christ, notre Seigneur. Méditer sur lui nous empêchera de devenir fatigués et découragés dans nos âmes. Je pense que nous tous, nous sommes vraiment fatigués de tout ce qui se passe autour de nous. On a beaucoup de choses qui peuvent nous décourager. Mais nous devrions penser à notre Seigneur Jésus-Christ. Méditer ce qu'il a subi sur cette terre. Ce que nous subissons actuellement, ce n'est pas plus grand que le Seigneur l'a subi. Il a connu l'isolation. Nous devrions méditer sur lui pour empêcher d'être fatigué et découragé dans nos âmes. Méditer ce qu'il a subi, méditer ce qu'il a fait, méditer ce qu'il a accompli sur la croix, méditer ce qu'il va faire pour nous dans l'avenir. Nous ne pouvons pas continuer dans la course si nous sommes fatigués et découragés. Mais j'espère que chacun d'entre nous sommes dans la course. Nous ne sommes pas restés dans notre conversion. Nous ne sommes pas restés après notre baptême. Nous ne sommes pas stagnés. Mais j'espère que nous sommes en train de progresser dans notre course, dans notre vie spirituelle. Et si nous sommes fatigués, découragés, et nous ne pouvons pas continuer dans la course, une parole très encourageante qui se trouve en Isaïe 40, 31, vous connaissez tous par cœur, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Que ce soit vrai pour nous tous. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Et pour conclure, dans notre course de la foi, nous devons mettre de côté des choses qui nous gêneraient. S'il y a des choses qui nous gênent, si vous pensez qu'il y a des choses qu'on peut posséder, ça peut gêner notre Dieu, notre Seigneur, on devrait débarrasser de ces choses. Nous devons garder notre attention sur Jésus qui a rendu notre salut possible. Dans les deux cas, la parole de Dieu est cruciale, car nous apprenons que quel genre de choses nous devons nous débarrasser. Mais comment savoir quel type de choses que je devrais débarrasser dans ma vie? Seulement la parole de Dieu peut m'éclairer. Je peux penser que ces choses ne sont pas méchantes. Ces choses que je garde, ce n'est pas nuisible. Mais si la parole de Dieu m'éclaire, qui me dit que je devrais débarrasser ces choses, ces choses peuvent être très chères pour moi, mais je devrais être prêt à débarrasser ces choses si je devrais continuer dans la course. Car en elle, nous apprenons, par la parole de Dieu, nous apprenons sur notre Seigneur, ce qu'il a enduré, comment son exemple devrait nous inspirer. C'est seulement la parole de Dieu qui peut nous enseigner ces choses. Laissez la parole de Dieu vous aider à examiner ce que vous devriez débrasser dans votre vie. Donnez-moi pour conclure, car vous avez besoin de persévérance, afin que après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce que vous est promis. Ce qui est passé dans les Hébreux 11 pour plusieurs des héros de la foi, et nous savons que certainement ce que le Seigneur il réserve pour nous aussi. Que le Seigneur bénisse sa parole, que son nom soit glorifié. Amen.